C'est mardi après-midi et le soleil tape fort sur Dakar, la capitale du Sénégal. Le marché en plein air de Sandaga est comme à son habitude, vibrant et bondé. Des centaines de commerçants, clients, fournisseurs, voitures et motos remplissent ces allées étroites. Des produits frais, secs, de la viande, du poisson, des épices, des légumes verts et des fruits colorés s'entassent sur les tables de bois et les paniers en osier. Des herbes médicinales pendent au-dessus des étals. Un groupe de personnes entoure une table couverte de morceaux de viande. Alors que deux d'entre eux discutent de la fraîcheur d'un morceau avec le vendeur, un autre est déterminé à négocier le prix de son sac de viande. Tu peux baisser le prix? C'est trop, je n'ai pas cela. Est-ce ton dernier prix? Demande-t-il. Ici, marchander la norme. Au-delà de l'aspect culturel, les prix des produits alimentaires de base tels que le riz, l'huile et la viande ont augmenté de 20 à 30% en Afrique de l'Ouest ces 5 dernières années, selon la Banque mondiale. La sécheresse, le manque d'ouvriers agricoles pendant la pandémie et les conflits ont freiné la production agricole et fait augmenter les prix des produits alimentaires dans la ville sénégalaise. Cela a mis une pression supplémentaire sur les ménages et affecté leur capacité à nourrir leur famille.
Je m'appelle Salimata Tiao et je vis à Dakar.
Vêtu d'un boubou orange, un habit léger, généralement porté par les femmes et les hommes au Sénégal, et d'un foulard lui couvrant les cheveux, Salimata Tiao a élevé seule ses 4 enfants. Unique source de revenus pour sa famille, elle a dû occuper plusieurs emplois afin de s'assurer qu'il y ait toujours de la nourriture sur la table.
J'ai commencé par la dactylographie avant d'abandonner pour aller faire la couture. Mon deuxième métier, c'était la couture.
Mais les prix ont augmenté si rapidement que les ménages vulnérables comme celui de Salimata ont eu du mal à suivre et ont dû chercher d'autres options pour obtenir des ressources financières supplémentaires.
Nous organisons une tontine, ce qui nous permet de nous entraider. C'est une sorte d'épargne pour les grandes occasions telles que la tabaski.
Si les tontines ont beaucoup aidé ces familles, en leur donnant un accès simple à des ressources financières, le manque d'argent n'est pas le seul obstacle à la sécurité alimentaire. Ces 10 dernières années, des millions de personnes ont quitté leur domicile en campagne et afflué vers Dakar à la recherche d'opportunités de travail ou pour rejoindre leur famille. Le boom démographique a intensifié la pression sur des ressources en eau déjà rares dans la ville semi-aride. Et les nombreuses nouvelles maisons furent construites sur des terres agricoles. Des millions d'hectares de terres cultivables ont ainsi été perdus. Cultiver des légumes sains et en quantité suffisante pour une population en hausse est devenu un véritable défi dans la capitale sénégalaise. En 2004, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en collaboration avec la ville de Milan, en Italie, a présenté un projet de micro-jardinage à la municipalité de Dakar afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie de la population. Kumbali Diao est experte en système agroalimentaire durable à la FAO.
Ce que nous avons fait en tant que FAO, c'est organiser beaucoup de formations pour former d'abord les ménages. Il y a une phase pratique où on va dans le site, au niveau du site des micro-jardins, où on commence à fabriquer les tables, montrer comment font les substrats, à mettre la toile, à faire les tubes de drainage et à les montrer comment on plante, comment on prépare les pépinières.
Le micro-jardinage est parfait pour les citadins, car ce type de jardin ne requiert pas trop de place. Les gens peuvent cultiver dans des petits espaces urbains, comme des toits, des cours ou encore des balcons. Plus de 10 000 personnes ont été formées aux techniques de micro-jardinage depuis le lancement du projet à Dakar. Salimata Tiao est l'une d'entre elles.
Quand j'ai fait la formation, j'ai aimé et depuis lors, je suis dans cette activité.
Thank you.
Le quartier HLM Patoa, où vit Salimata, est l'un des plus densément peuplés de la capitale sénégalaise. Plus de 13 000 personnes par kilomètre carré agglomérées dans les nombreux immeubles et maisons de la zone. Salimata se dirige vers un immeuble blanc de 4 étages. Elle entre et monte les escaliers jusqu'au toit et sa terrasse. Là-haut, sur une petite terrasse de béton, un groupe de femmes s'active autour de plusieurs lignes de tables hautes faites de palettes en bois et de seaux. Au-dessus, des caisses en plastique et à l'intérieur, des légumes. Une multitude de cultures et de légumes verts y fleurissent. Salimata salue une autre jardinière et commence à retourner la terre dans une caisse à moitié pleine de salade.
Avec le micro-jardinage, nous récupérons certains déchets que nous recyclons pour planter de la laitue, de la menthe, de l'aubergine, de l'oignon. Tout ce qui allait salir la ville, nous le recyclons ici. C'est vraiment une excellente chose.
Des vieux pneus et de vieilles boîtes, des caisses en plastique et des joints. Tout type de matériaux peuvent être ici utilisés et recyclés, donc très peu d'investissement est nécessaire. Les micro-jardins n'ont pas non plus besoin de beaucoup d'eau pour l'irrigation et ont souvent recours à l'eau de pluie.
En plus, c'est ça, puisque nous n'utilisons pas d'eau usée ni de pesticides. La menthe est toute fraîche de même que la tomate. Tu peux garder la laitue pendant un moment chez toi et il ne va pas faner. Et en mangeant, tu sens que c'est ça.
Tomate fraîche, si tu veux le salade, tu vas voir ce que tu.
La méthode est également respectueuse de l'environnement et utilise les déchets disponibles localement, tels que la coque d'arachide, la paille de riz, la fibre de coco ou encore le sable comme substrat. Les récoltes obtenues à travers le micro-jardinage sont en général plus importantes et de qualité supérieure que celles obtenues à travers le jardinage traditionnel. Le projet fournit de la nourriture saine et variée et des revenus à près de 4000 familles.
Nous avons diverses productions. Moi, je diversifie. Je fais de l'aubergine, je fais des concombres, de l'ail, de la laitue, du persil, de l'oignon et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, nous consommons ce que nous produisons. C'est le surplus que nous vendons.
83% des bénéficiaires du projet sont des femmes, qui sont pour la plupart en charge de nourrir leur ménage. Le projet travaille également avec d'autres groupes vulnérables afin de leur fournir des opportunités économiques.
Nous sommes une cinquantaine de femmes ici. Chacune des tables que vous voyez ici appartient à quelqu'un. Et la plupart sont du troisième âge. Nous occupons le même espace. Mais chacune travaille pour son propre compte. Et c'est ce qui fait que les choses marchent mieux.
Les micro-jardins sont si faciles à mettre en œuvre que la FAO a publié un manuel pour quiconque serait intéressé à en créer un. L'organisation et les autorités locales travaille main dans la main pour généraliser le procédé partout à travers la ville, comme l'explique Mohamed Lamine Doy, membre du projet de micro-jardinage de la ville de Dakar.
L'objectif de ce projet, c'est d'implanter dans chaque commune un centre de formation et de démonstration. Actuellement, on a 12. Il nous reste 7 communes à installer un centre de formation. Dans ces centres de formation, chaque centre, on a 2 encadreurs formateurs en technique de micro-jardinage. Parce qu'avant, on a eu à procéder à une formation des formateurs. Et la plupart, c'est des femmes.
Ancienne élève, Salimata est maintenant formatrice en microjardinage et toujours enthousiaste à l'idée de partager ses connaissances avec les autres.
Il y en a qui le font à domicile, on leur fait une table et on leur montre comment on fait. Chaque fois que quelqu'un vient, nous l'aidons à lui montrer tout ce qu'il doit faire. On peut même se déplacer à domicile pour contrôler si tout se passe bien.
Durable et peu demandeur en eau, le projet de microjardinage de Dakar contribue à la sécurité alimentaire et s'adapte au changement climatique. Pour des citadins comme Salimata, c'est aussi une source importante de revenus qui contribue à l'inclusion sociale et au reverdissement de la ville de Dakar, autrement couverte de béton.
Je sais que c'est une bonne activité et cela peut beaucoup apporter au pays. Cela nous donne une nourriture saine. Si à 63 ans je me porte aussi bien, cela montre que je mange sainement. Il faut le reconnaître.
Facilement accessible, le projet a été étendu à d'autres villes du Sénégal et mis en œuvre dans d'autres pays africains. Alors que les villes deviennent de plus en plus peuplées et que le changement climatique s'accélère, des systèmes simples comme les micro-jardins pourraient bien gagner en popularité.